Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible. Il y aura trois textes ce matin. Tout d'abord, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 37 à 39. Jésus déclare : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, il s'agit de la Pentecôte juive, qui est le souvenir de l'alliance du Sinaï. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 9 à 11 et le verset 16. Nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons la joie de fêter Pentecôte et le dimanche des confirmations, et nous le faisons avec des dizaines et des dizaines de paroisses protestantes, puisque c'est la tradition dans le protestantisme de choisir le dimanche de Pentecôte pour cette célébration des confirmations. Je vous propose de mettre la prédication de ce matin sous l'égide d'une question de l'apôtre Paul que nous venons d'entendre dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 3 et au verset 16. Cette question s'adresse à nous tous, mais plus particulièrement aujourd'hui aux catéchumènes. L'apôtre Paul déclare : Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul. Alors j'aimerais placer cette prédication sous l'éclairage, pour les trois étapes successives de cette prédication, de ces trois vertus théologales que l'on trouve à la fin de l'hymne à l'amour, l'hymne à la charité de 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Tout d'abord, la foi. Ne savez-vous pas ? Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette question dans des cercles théologiques, dans le cadre d'études bibliques ou bien entendu de la catéchèse ? Ne savez-vous pas ? C'est une question fréquente. Ne savez-vous pas que cette épître aux Corinthiens est suivie d'une deuxième épître ? Et que probablement il y en avait une troisième que l'on n'a jamais retrouvée. Puisqu'on parle de Paul, ne savez-vous pas que la première épître aux Thessaloniciens, Thessalonique est une ville alors de Macédoine, de l'Empire romain, ne savez-vous pas que la première épître de Paul aux Thessaloniciens est le plus ancien écrit de tout le Nouveau Testament. J'insiste là-dessus parce qu'on dit souvent que Paul, par rapport aux évangiles, a donné à ses évangiles une orientation différente après leur proclamation. Pas du tout, puisque les épîtres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Ne savez-vous pas que cet épître aux Thessaloniciens est d'ailleurs le plus ancien de tous les écrits chrétiens connu jusqu'à ce jour. Ne savez-vous pas, puisqu'on parle encore de Paul, qu'Augustin, saint Augustin, au 4e et au 5e siècle de notre ère, saint Augustin a vécu la chute de Rome, la chute de l'Empire romain, la prise de Rome par les barbares, et en 410, c'était par Alaric. Même si Augustin vivait en Afrique du Nord. Ne savez-vous pas qu'Augustin et Luther, au XVIe siècle, réformateur, nous fêtons cette année le 500e anniversaire de la Réforme, 500e anniversaire par rapport aux fameuses thèses, les 95 thèses de Luther. Eh bien, ne savez-vous pas qu'Augustin et Luther n'aurait jamais pensé ce qu'ils ont pensé, écrit ce qu'ils ont écrit, s'ils n'avaient pas rencontré les épîtres de Paul. Et Luther allait très loin. Il allait jusqu'à dire que l'épître aux Romains est bien plus un évangile que les évangiles, notamment de Matthieu, Marc et Luc. Et on sait que cet épître aux Romains, dans l'histoire du protestantisme, est presque devenu un cinquième évangile après Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ne savez-vous pas ? Certes, mais un savoir aussi juste, aussi complet, aussi fidèle à la Bible serait-il ? Ce n'est pas la foi. Il faut faire une différence entre la foi et les croyances. Les croyances, c'est croire que. On croit que Jésus ou Dieu sont ceci ou cela. La foi, c'est croire en Dieu et en Jésus. Par exemple, Il ne suffit pas de croire que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui croient que probablement, à l'origine de l'univers et du temps, il y a un Dieu. Croit-il en Dieu pour autant? De même qu'il y a des gens qui croient en Dieu dont nous sommes, mais qui se demandent souvent, Dieu existe-t-il véritablement? Les croyances, les doctrines sont des expressions intellectuelles, souvent magnifiques, mais combien fragiles, de la foi. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une ouverture à ce qui nous dépasse. La transcendance, comme on dit, Dieu. Voyez-vous, depuis que l'homme est l'homme, il refuse pour se définir de s'en tenir à ses seuls horizons spirituels. Il dit ce qui le dépasse. Il refuse d'enfermer l'homme dans l'homme quand il définit l'homme dans une sorte de pétition de principe. L'homme est toujours plus que l'homme. Le poète de l'Antiquité latine dit quelque chose de magnifique à ce sujet. Il dit, c'est une image, l'homme est pareil à un oiseau dont les ailes sont plus grandes que son nid. Et puis la foi, c'est bien sûr un geste de confiance. Un geste de confiance par rapport à Jésus, à ses paroles, son enseignement, sa prédication, mais aussi à son exemple. Voyez-vous, il y a dans les Actes des Apôtres un discours de Pierre, c'est au chapitre 10, où il est dit, c'est très beau, c'est Pierre qui dit cela, l'apôtre Pierre, Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Voilà, la foi c'est donc aussi une manière de vivre. Et chers catéchumènes, on ne vous demande pas en ce jour de signer une confession de foi en bonne et due forme avec ses différentes parties implacables. D'ailleurs, lequel d'entre nous pourrait en faire autant sans le faire avec un bon nombre de réserves? Une question vous est posée. Dans ce débat, croire et savoir, acceptez-vous de prendre au sérieux la question de Dieu, les questions religieuses, du christianisme, de la Bible, et de continuer dans une quête spirituelle votre recherche? Acceptez-vous de ne pas dire « tout cela m'est indifférent ». Tout cela est sans intérêt pour moi. Tout cela ne me concerne pas. À l'heure d'un baptême, passé, on confirme son baptême, ou actuel, on dit au baptisé, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, Dieu t'aime et cela ne dépend pas de toi. C'est un don de Dieu, c'est la grâce. On parle souvent du sommaire de la loi, le résumé, le condensé de la volonté de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous essayons d'aimer. Nous essayons de faire du bien. Non pas pour être aimés de Dieu, pour obtenir quelque chose de lui, mais parce que Dieu nous aime. Et nous faisons donc cela de manière désintéressée. Dans la première épître de Jean, qui se trouve dans la Bible, au chapitre 4, verset 19, il est dit, « Quant à nous, aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » C'est là le fondement de la foi et l'expression de la grâce. Après la foi, j'ai dit l'espérance. Où est Dieu? C'est une question que nous nous posons. Nous savons bien que Dieu n'est pas au ciel, même si on dit notre Père qui est aux cieux. parce que la conception du monde que nous avons aujourd'hui n'est plus du tout celle que l'on avait au moment des textes bibliques. Dieu n'est pas non plus dans des choses. Dieu n'est pas non plus dans un livre, fût-ce celui de la Bible. Parce que la parole de Dieu dépasse infiniment les 66 livres de notre Bible. Dieu parle où il veut, à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu ne peut pas être enfermé non plus dans une église. Il dépasse les frontières sectaires de nos églises chrétiennes. Dieu n'est pas non plus dans un lieu, dans un bâtiment. Il n'est pas dans un temple, dans une église, dans une synagogue, dans une pagode, dans une mosquée. À l'entrée de la cathédrale de Nantes, qui est très belle, elle est très sobre. Il y a une petite affichette qui demande aux visiteurs et aux touristes nombreux de faire silence. Je trouve cela tout à fait normal, parce qu'il ne faut pas déranger ceux qui viennent là pour se recueillir ou pour ne pas troubler des célébrations, des messes. Mais cette affichette ajoute qu'on nous demande de faire silence parce que c'est ici la demeure de Dieu. Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, j'y reviens, qui, d'après un discours qui nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, un discours qu'il prononce à Athènes, devant des philosophes, déclare l'apôtre Paul, « Dieu n'habite pas dans des temples faits de la main des hommes. » Où est Dieu ? L'apôtre Paul répond, « En nous, en vous. » C'est une réponse assez audacieuse et même révolutionnaire. Au temps de Paul, quand on sait ce que représentait le temple de Jérusalem pour les Juifs, avec, pour eux, la manifestation de la présence de Dieu dans ce temple. Où est Dieu ? Il est en nous. Et c'est exactement ce que dit le message de Pentecôte que nous relisions tout à l'heure dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 4, où il est dit des témoins qui fêtent la Pentecôte juive, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Vous êtes, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. C'est une parole forte. C'est une parole qui valorise notre condition humaine, qui dit quelque chose de très positif pour nous. Et cela peut susciter un enthousiasme, un bonheur, une lumière. Un écrivain français contemporain, catholique, Julien Green, dit de Dieu qu'il est un abîme de lumière. Eh bien, nous participons de cette lumière. Dans ma Bible, chaque fois que je prêche, depuis plus de 50 ans, j'ai avec moi une carte postale, toujours, où que je prêche. Sur cette carte postale, il y a un portrait du pasteur Wagner, le fondateur de notre paroisse en 1907. Et sous ce portrait, il y a une citation de Wagner qui dit « L'homme est une espérance de Dieu. » Il renverse les choses. Alors que nous disons toujours, Dieu est une espérance de l'homme. Lui vient nous dire, mais l'homme aussi est une espérance de Dieu. Et pourquoi j'ai cela avec moi quand je prêche ? Parce que les prédicateurs, quels qu'ils soient, sont toujours tentés d'apporter une vision sombre, triste, pessimiste de l'être humain. Il faut résister à cela. L'homme est une espérance de Dieu. Nous ne devons pas sortir des cultes avec la tête basse, accablée et triste. Nous devons sortir de nos cultes encouragés pour vivre la semaine, enthousiasmés par cet Esprit de Dieu qui nous habite. Vous êtes une espérance de Dieu. Dieu habite en nous, au moment difficile de la vie. Quand nous connaissons des échecs, quand nous sommes victimes d'une injustice, et quand nous sommes confrontés aux injustices qui nous entourent, connaissant parfois aussi des souffrances physiques insurmontables, des souffrances spirituelles parce que notre foi est habitée par mille questions et tourments, quand nous connaissons un deuil cruel, la solitude, la haine, quand nous sommes confrontés à la laideur du monde. Albert Camus disait que nous sommes confrontés au visage ensanglanté de l'histoire. Alors nous sommes tentés, et c'est bien normal, de dire « Mais que fait Dieu? Où est Dieu ?» Il se tait, nous avons l'impression que nous ne le rencontrons qu'à travers son silence et son absence, et nous sommes rejetés sur les rivages de l'incrédulité. Où est Dieu? Voyez-vous, dans ces moments-là, n'oublions jamais cette question de Paul, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, que Dieu est en nous? Aurais-je oublié cela ?» Dieu lutte, Dieu combat en moi, avec moi, parce qu'il souffre avec moi toutes ces douleurs que je peux connaître. Théodore Monod, peut-être que cela vous dit quelque chose, cette grande figure protestante, Théodore Monod, l'homme du Sahara, l'homme du désert, le grand explorateur, aimait à citer, je l'ai souvent entendu me le dire, son père, Wilfred Monod, le pasteur, le théologien de la paroisse voisine de l'oratoire, Wilfred Monod qui disait « Dieu ne nous préserve pas de la foudre, mais Dieu nous préserve quand nous sommes foudroyés. Il est en nous, il nous porte, il nous accompagne, il nous permet de vivre ce dynamisme créateur qui est le sien. La foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Le temple, c'est dans ce texte de Paul une image. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette image parle d'une construction, de quelque chose qui n'est pas achevé, qui est dynamique, qui est entraînant, qui est mobilisateur. L'Esprit de Dieu nous anime et nous porte dans le chantier du monde. Cela peut susciter en nous des élans, des actions, des passions, des révoltes positives, constructives et non pas nihilistes, un espoir. J'aimerais vous lire quelques lignes d'Albert Schweitzer. On vous en a parlé au catéchisme. Albert Schweitzer écrit ceci. Dans ma jeunesse, j'ai entendu entre adultes des conversations qui m'étreignaient le cœur d'une indicible tristesse. Ces adultes reconnaissaient dans leur idéalisme d'autrefois et dans leur capacité d'enthousiasme des biens précieux qu'ils auraient dû conserver, mais en même temps, il leur semblait nécessaire de les avoir abandonnés. La peur me saisit alors de me voir un jour réduit à regarder mon passé avec la même tristesse. Je résolus de ne pas me soumettre à la tragique nécessité de devenir un homme raisonnable, à ce vœu qui n'était que bravade d'adolescent, j'ai essayé de conformer ma vie. Sauvegarder l'enthousiasme qui est en soi, C'est encore ce que dit l'apôtre Paul, et cette fois dans cette première épître aux Thessaloniciens que je citais tout au début de cette prédication, au chapitre 5, Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». Oui, n'éteignez pas la flamme qui est en vous, qui est en l'autre. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, un esprit d'amour, un esprit de générosité, un esprit de fraternité. Nous allons vivre, et pour certains d'entre vous, pour la première fois, mais vous y êtes tous invités, la communion, la Sainte Cène, l'Eucharistie, la Sainte Liturgie, comme on l'appelle selon les confessions chrétiennes. Nous allons vivre la communion. Cette communion, elle a une double dimension. De manière symbolique, on pourrait dire qu'elle a une dimension verticale, communion avec le Dieu de Jésus-Christ. Mais qu'elle a aussi une dimension horizontale, puisque la scène exprime un repas et un partage. Voyez-vous, dans le Notre Père, cette prière commune à tous les chrétiens, quelle que soit l'Église qui les abrite. Dans la prière du Notre Père, il y a deux parties. La première partie, ce sont les requêtes qui concernent Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, par exemple. Et la dernière étape, ce sont les demandes qui concernent l'être humain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, par exemple. Eh bien, les premières demandes qui concernent Dieu commencent par notre Père, et les premières requêtes qui concernent l'être humain commencent par notre pain de ce jour. Et c'est une erreur qui fausse complètement l'orientation de cette prière que de l'appeler le Notre Père, parce que justement, elle n'est pas que le Notre Père. Le vrai titre de cette prière devrait être le Notre Père, notre pain. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. Un christianisme spirituel, celui de la piété, du recueillement, des cultes, de la prière, est inséparable d'un christianisme pratique et social qui nous jette sur les chemins de la vie à la rencontre des autres. Et au cœur du culte chrétien, ce souci de l'autre, des autres, est si profondément inscrit que ce repas du Seigneur n'aurait plus aucun sens s'il n'était cautionné au moins dans le secret de quelques cœurs par cet amour sans frontières qui exige que nous partagions notre pain spirituel, culturel, matériel avec les autres, en étant les premiers à réclamer des réformes sociales, écologiques, économiques susceptibles de nous conduire vers une plus juste répartition de nos biens sur cette terre. Communion. Alors, que puis-je vous dire en conclusion ? Oui, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignons pas l'esprit et ne désespérons jamais, ni de nous-mêmes, ni des autres, ni de Dieu. Amen.